Vous allez entendre la conférence de Benoît Melançon, intitulée « Un intellectuel en temps de pandémie ». Cette conférence a été préparée pour les rencontres internationales de Genève en juin 2020.
Le 7 janvier 2015, j'étais ici, dans mon bureau, à Montréal, quand sur les réseaux sociaux est tombée l'annonce de la tuerie au magazine Charlie Hebdo. Comme bon nombre de gens, j'ai été horrifié par ce qui se passait, et comme bon nombre de gens, je me suis senti totalement démuni. Que peut faire, que doit faire un intellectuel devant pareil événement? J'ai alors discuté de la situation avec un de mes amis, professeur à l'Université de Montréal, comme moi, qui a eu cette remarque évidente et parfaitement juste. Il fallait continuer à faire ce que nous faisons habituellement. Réfléchir, interpréter, lire, écrire, prendre la parole. Pour le dire autrement, faire notre besogne d'intellectuel. C'est donc ce que j'ai essayé de faire, à ce moment-là, en me concentrant sur une seule chose, en apparence assez secondaire par rapport à ce qui se passait ces jours-là. J'avais été frappé, dans les minutes qui ont suivi l'annonce de l'attentat, par l'apparition d'un nom propre, celui de Voltaire. Comme je suis 18e-iste, j'ai décidé de suivre la présence de ce signe dans l'espace public. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, en janvier 2015, que cette évocation d'un auteur, voire d'un titre d'œuvre, le traité sur la tolérance? J'ai fait ce qu'un intellectuel fait quand il se pose ce genre de questions. J'ai amassé de l'information, je l'ai organisée, je l'ai partagée, sur mon blog d'abord, puis en classe ensuite, devant mes étudiants. J'ai écrit là-dessus, j'en ai parlé publiquement. La situation de 2020 n'est évidemment pas la même. Ce n'est pas le terrorisme qui a frappé, mais une maladie. Ce n'est pas un lieu qui est touché, Paris, mais la planète. Ce n'est pas une valeur qui est rejetée, pour aller vite, la liberté d'expression, mais c'est bien notre liberté qui est mise en cause. La même question se pose à moi qu'en 2015. Que fait un intellectuel dans ce temps-là? Que faire devant l'apparition de la COVID-19? Parenthèse, vous l'aurez remarqué, je suis québécois. Or, au Québec, dans l'espace public, on dit « la COVID », pas « le COVID ». Je dirais donc « la COVID ». Fin de la parenthèse. Quand on demandait à l'essayiste québécois André Belleau de définir son travail, il répondait par cette formule. L'essayiste a le bonheur d'habiter la sémiosphère. Je voudrais reprendre à mon compte cette formule et l'appliquer non plus à l'essayiste, mais à l'intellectuel. L'intellectuel est celui ou celle qui a le bonheur d'habiter la sémiosphère, de se plonger dans l'univers des signes, de s'appliquer à les lire, à les interpréter, à les réagencer. Je reviens à ma question, que fait un intellectuel en temps de pandémie? Il écoute, il lit, il écrit, il enseigne, dans certains cas, c'est le mien, il essaie de donner du sens à ce qui l'entoure. Il ne peut pas se transformer du jour au lendemain en épidémiologiste, en spécialiste de médecine publique, en sociodémographe, en soignant, pour reprendre un terme à la mode, en expert, bref. Il peut faire le travail qui est le sien, son travail d'intellectuel. Il verra des choses qui l'amusent, des choses qui l'enchantent, mais aussi des choses qui l'inquiètent. Pour cela, il faut d'abord les entendre, ces signes de la sémiosphère. Je voudrais le faire ici de deux façons. Habitant une grande ville nord-américaine, j'ai pu, pendant la pandémie, et découvrir une chose tout à fait inattendue, le silence. Pas le silence du dimanche matin, cette absence de son que l'on sait temporaire, ce silence artificiel en quelque sorte, cette brève suspension de la vie sociale, non. Il s'agissait d'un autre silence, bien plus étonnant, bien plus dense, bien plus troublant. Le coronavirus faisait réapparaître dans la ville malade, une ville effacée, ancienne, archaïque, une ville sans moteur, pour le dire un peu platement. Ce silence était d'autant plus précieux qu'il ne pouvait pas durer. Le déconfinement progressif aura été bien sûr un retour à la cacophonie consubstantielle des grandes villes. Écrivant ceci le 11 mai 2020, j'entends de ma fenêtre les bruits d'un chantier voisin muet depuis presque 2 mois. Montréal est redevenu Montréal, COVID-19 ou pas. Habiter la sémiosphère, c'est donc être sensible au bruit du monde. C'est aussi être sensible aux mots du monde. Quand une crise survient, le vocabulaire en témoigne immédiatement. Depuis 2015, Charlie Hebdo ne désigne plus seulement un magazine, mais un événement et un symbole. À la fin de la même année, un autre mot s'est épaissi de sens, Bataclan, salle de spectacle devenue souvenir d'une autre tuerie de masse et symbole d'un mode de vie menacé. Il fallait donc s'attendre à ce que ce soit la même chose devant la pandémie. Le monde s'est alors couvert de mots anciens auxquels on a donné de nouveaux sens, aussi bien que de mots nouveaux. Confinement existait, mais en un sens essentiellement carcéral. Il est devenu notre condition commune. En sortir nous a obligés à créer de nouveaux mots. Pré-confinement, déconfinement, post-confinement, voire malheureusement, reconfinement. D'autres expressions sont devenues omniprésentes, parfois en des incarnations multiples. À côté de la distanciation sociale, il y a eu la distanciation physique, la distanciation spatiale ou la distanciation sanitaire, voire la social distancing en français dans le texte. Ces mots, les recyclés comme les nouveaux, nous en avons eu besoin pour décrire une situation inédite. Nous en avons eu aussi besoin pour résister, pour ne pas céder à la panique, pour rire, tout simplement, au visage de la tragédie. Nous nous sommes amusés à en détourner le sens. Covidio ou Covidivorce, je peux me tromper, ne me paraissent pas promis un brillant avenir lexical, mais ces mots ont été nécessaires à quelques-uns, en un moment précis, pour ne pas céder au désespoir. À une époque où chez certains, le télétravail est devenu un mode de vie, il a aussi fallu trouver, comment dire, son épuisement devant les visioconférences, notamment celle du logiciel Zoom. Voilà pourquoi une de mes collègues s'est décrite un jour comme une zombie. Et ce n'était pas en sortant d'un apéro Zoom. Aux États-Unis, l'absurdité du vocabulaire présidentiel prend tout son relief grâce à une comédienne sur le réseau social TikTok. Sarah Cooper y mime des extraits des discours de Donald Trump sans en changer un seul mot. Sur les lèvres de l'une, on entend les mots de l'autre sans leur mise en scène habituelle. Au-delà de la prouesse technique de la parfaite synchronisation, l'exercice a pour effet d'amplifier comiquement les dévoiements de sens quotidiens de la Maison-Blanche. Dans le même ordre d'idées, mais sur un plan différent, celui de l'histoire de l'art, on pourrait rapprocher les mots inventés à des fins ludiques et l'art de Sarah Cooper des innombrables reconstitutions historiques des grands tableaux du passé qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux. Réinventer chez soi, avec les moyens du bord, la mort de Marat de David ou la jeune fille à la perle de Vermeer, n'est-ce pas aussi faire un pied de nez à ce qui nous a tenus confinés? Revenons à la langue. Les situations de crise amènent aussi l'intellectuel à s'interroger, non pas seulement sur les mots du jour, sur ces signes du quotidien, mais encore sur des expressions toutes faites. Prenons une expression parfaitement banale, beaucoup vue et beaucoup entendue, au moins en Suisse et au Québec, au cours des dernières semaines. Merci de votre compréhension. La formule nous a submergés. Chez le marchand de vin, à la pharmacie, devant les restaurants, dans les moyens de transport, sur les réseaux sociaux, en signature des courriels professionnels. Bien étrange formule que celle-là, pourtant. Elle est à la fois la marque d'une marque de reconnaissance et une demande unique, une demande timide. On remercie autrui de sa bienveillance, sans toujours bien savoir si cette bienveillance nous est acquise. Par le partage d'une expérience, cette compréhension souhaitée de tout un chacun devrait tenir autant de la collaboration concrète « aidez-nous à lutter contre la pandémie » que de la communication, que de la communion. Nous sommes tous ensemble dans le même bateau. Sans la pandémie et son appel réel et nécessaire à la compréhension mutuelle, voilà bien un signe sur lequel l'intellectuel que je suis ne se serait probablement jamais véritablement penché. Disons-le autrement, les signes n'ont de sens qu'en contexte. En 1981, Italo Calvino a réfléchi à la nature des classiques, dans un texte souvent lu et commenté, « Pourquoi lire les classiques ?» Ce n'est pas un historien qui parle, mais un lecteur, et un lecteur qui essaie de comprendre ce que représentent les classiques dans les sociétés modernes à partir d'une réflexion sur sa propre expérience de lecteur. Calvino propose une définition en 14 traits du classique, qu'il s'agisse d'un auteur classique ou d'une œuvre classique. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble de ces traits, je me contenterai d'en évoquer deux. Prenons pour commencer la septième des caractéristiques des classiques selon Calvino. Je cite « Les classiques sont des livres qui, quand ils nous parviennent, portent en eux la trace des lectures qui ont précédé la nôtre et traînent derrière eux la trace qu'ils ont laissée dans la ou les cultures qu'ils ont traversées ou, plus simplement, dans le langage et les mœurs. » Pour Calvino, et il a évidemment raison, certains auteurs nous arrivent précédés de leur réputation. On a une idée de Marivaux sans avoir lu une seule ligne de Marivaux. Marivaudage oblige. C'est la même chose pour le Marquis de Sade, lourdement annoncé par le sadisme, ou pour Kafka et l'adjectif kafkaïen. Alors, ces mots, marivaudage, sadisme, kafkaïen, ce sont des signes de reconnaissance. C'est aussi vrai de Voltaire et de l'esprit qu'on lui prête volontiers, cet esprit voltairien qu'on a tant évoqué en 2015. Il nous fallait alors un défenseur de la liberté d'expression et un apôtre, façon de parler, de la tolérance. Voltaire faisait parfaitement l'affaire, qu'on l'ait lu ou pas. On pourrait même aller jusqu'à dire que Voltaire se prêtait d'autant mieux au contexte de 2015 qu'on ne l'avait pas lu. Ce qui m'amène à la 14e remarque formulée par Calvino en 1981 est classique, ce qui persiste comme rumeur de fond, là même où l'actualité qui en est la plus éloignée règne en maître. Il y aurait donc des œuvres que l'on pourrait convoquer selon les besoins du moment, des œuvres qui ne seraient plus rumeurs de fond, mais œuvres pleinement contemporaines. Au début de 2015, je l'ai dit, c'était le traité sur la tolérance, par exemple. En 2020, quelles œuvres sommes-nous allés chercher pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait? Il y a eu Gabriel Garcia Marquez. On pouvait facilement prendre « L'amour au temps du choléra », le titre de son roman de 1985, et le transformer en « L'amour au temps du coronavirus ». Rien de plus simple. Je voudrais quand même noter une petite chose, mais significative. Garcia Marquez écrit « Au pluriel ». Au temps du choléra. Ceux qui s'inspirent de lui aujourd'hui utilisent plutôt le singulier, comme s'ils avaient seulement entendu le titre, mais sans le voir ou sans le lire. Il y a aussi eu, parmi les titres constamment ressassés de 2020, le Décaméron de Boccace pour le Moyen Âge et le Journal de l'année de la peste de Daniel Defoe pour le début du 18e siècle. Ou encore, moins fréquemment, c'est vrai, Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas, et Voyage autour de ma chambre, de Xavier de Maistre. Avec les premiers, Boccace et Defoe, on a des épidémies. Avec les seconds, Dumas et de Maistre, des formes de confinement. Pour ces pratiques de quarantaine, Pascal était aussi bien pratique. Souvenez-vous, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Mais l'auteur le plus souvent cité a probablement été Albert Camus. On aurait pu s'appuyer sur son spectacle théâtral « L'état de siège » de 1948, où la peste éclate en Andalousie. Cela aurait permis une lecture politique de la situation actuelle. Je pense ici surtout à la deuxième partie du spectacle, dans laquelle on assiste à une critique grinçante du fonctionnement des bureaucraties en temps de crise. À ce texte dramatique, on a plutôt préféré une œuvre moins complexe sur le plan formel, un roman au titre plus explicite, « La peste », paru un an plus tôt. Lire « La peste » en pleine pandémie a évidemment des résonances inattendues. Quand le narrateur parle de la quarantaine, de la fermeture de sa ville, Oran, de la rapidité de la propagation de la maladie mortelle, des comportements des habitants ou de la séparation qui est leur nouvelle condition, on croirait entendre les médias contemporains. On peut extraire des phrases du roman et les appliquer à la situation actuelle sans aucune difficulté. Cet été-là, le corps n'avait plus droit à ses joies. « Il y a toujours plus prisonniers que moi », était la phrase qui résumait alors le seul espoir possible. « Il faut se surveiller sans arrêt pour ne pas être amené, dans une minute de distraction, à respirer dans la figure d'un autre et à lui coller l'infection. Enfin, mais qu'appelez-vous le retour à une vie normale ?» C'est pourtant un autre passage de ce roman de 1947 qui m'intéresse. Il s'agit de celui où le narrateur du roman refuse de parler d'héroïsme pour caractériser l'activité du personnel médical. Je cite un peu longuement. C'est pourquoi nos formations sanitaires, qui se réalisèrent grâce à Tarou, c'est un des personnages, doivent être jugées avec une satisfaction objective. C'est pourquoi le narrateur ne se fera pas le chantre trop éloquent de la volonté et d'un héroïsme auquel il n'attache qu'une importance raisonnable. Mais il continuera d'être l'historien des cœurs déchirés et exigeants que la peste fit alors à tous nos concitoyens. Ceux qui se dévouèrent aux formations sanitaires, je cite toujours, n'eurent pas si grand mérite à le faire, en effet, car ils savaient que c'était la seule chose à faire, et c'était ne pas s'y décider qui alors eût été incroyable. Ces formations aidèrent nos concitoyens à entrer plus avant dans la peste et les persuadèrent, en partie, que, puisque la maladie était là, il fallait faire ce qu'il fallait pour lutter contre elle. Parce que la peste devenait ainsi le devoir de quelques-uns, elle apparut réellement pour ce qu'elle était, c'est-à-dire l'affaire de tous. Cela est bien, mais on ne félicite pas un instituteur d'enseigner que deux et deux font quatre. Fin de la citation. Ce passage-là, il n'a été guère entendu depuis le début de cette année. Au contraire, on a cessé de dire des soignants qu'ils étaient des héros et on les a applaudis à heure fixe sur nos balcons ou dans nos rues pour les remercier justement de leur héroïsme. Il est même question, en France, de leur donner des médailles. Camus dit autre chose. Les soignants, comme les instituteurs à Oran pendant la peste, faisaient leur travail. À l'héroïsme, le narrateur n'attache, il le dit clairement, qu'une importance raisonnable. Il n'aurait pas été de ceux qui ont déployé, et jusqu'au sommet des États, une rhétorique guerrière pour désigner la vie dans les hôpitaux. C'est aussi ça, un classique. Une œuvre qu'on lit ou qu'on relit pour y trouver ce qui nous convient à un moment de notre existence, ici, à un moment de notre existence collective. En l'occurrence, la peste nous convient mieux que l'état de siège. Un classique, c'est la mémoire, certes, c'est la tradition, c'est un héritage, c'est un patrimoine, mais c'est aussi, et nécessairement, l'incarnation d'une mémoire sélective. Tous les signes dans l'espace public n'ont pas la même valeur. Encore faut-il avoir le goût de lire. La pandémie a eu des effets bien différents d'une personne à l'autre. Certaines ont continué à vivre presque comme si de rien n'était. D'autres, et j'en ai été, ont eu plus de mal. Lire, un classique ou pas, pour moi, a été une expérience nouvelle qui n'avait plus son évidence d'avant, comme on dit maintenant. La relecture, elle, me posait moins de difficultés et je ne m'en suis pas privé. La concentration, l'attention et l'ouverture à la parole de l'autre ne sont manifestement pas affaires de temps libre ou de temps en apparence libre. Cette pandémie, elle a donc fait parler et elle a donc fait lire, même si inégalement, et elle a aussi fait écrire. Peut-on tirer quelques enseignements de cette masse de mots, par définition impossible à tous saisir? Au moment où j'écris ces lignes, on annonce déjà des dizaines et des dizaines de livres sur ce qui est en train de nous arriver dans toutes les langues. Ce n'est pas cela qui va m'intéresser, mais il faudra le faire un de ces jours. Ces livres ont beau être produits, et commercialisés. Dans l'urgence, ils disent quelque chose de notre monde, qu'on le veuille ou non. On s'est beaucoup gaussé en France, durant les premiers jours de la pandémie, des journaux de confinement. Ces journaux intimes, instantanément rendus publics par leurs célèbres signataires. Je ne nommerai personne, mais je signalerai cependant qu'ils étaient souvent le signe d'une appartenance de classe. Il est tout probablement plus facile de tenir son journal dans sa maison de campagne qu'en travaillant en première ligne, autre expression du vocabulaire covidien, à lutter contre la maladie. Voilà pourquoi, au sujet de ces journaux, on a parfois parlé de romantisme de la claustration. En revanche, je veux insister sur le fait que devant le discours commun, le discours sanitaire, le discours politique, le discours policier, cette pratique du journal intime témoigne d'un appel au témoignage, au récit personnel, aux traces de l'expérience. À tous ces chiffres contradictoires qu'on nous a jetés à la figure jour après jour, à toutes ces statistiques avec lesquelles on essayait de nous faire peur et de nous rassurer dans le même temps, il s'agissait de répondre au jeu, que l'on soit ou pas un intellectuel. Une forme encore plus ancienne que le journal intime a aussi été mise à contribution, la lettre. On nous rebat les oreilles depuis des décennies que la correspondance est morte, qu'on n'écrit plus de lettres, que la poste ne sert plus qu'à livrer des colis. C'est probablement juste en ce qui concerne l'ordinaire des jours, mais ce n'est plus du tout quand cet ordinaire cède le pas à l'extraordinaire. C'est particulièrement vrai quand une célébrité meurt ou quand survient une catastrophe. Tout le monde peut se souvenir de ces mausolées spontanées érigées à la mémoire de la princesse Diana, de Michael Jackson, de Prince ou de Gabriel Garcia Marquez, pour revenir à lui, au moment de leur mort. Qu'est-ce qu'on y trouvait? Des objets divers, des fleurs, des cadeaux posthumes et des mots adressés. Adressés tant aux disparus qu'à ceux qui les pleurent. De même, quand un train déraille au cœur de Lac Mégantic le 6 juillet 2013, faisant 47 morts, l'église de cette petite ville québécoise réserve un espace où punaiser de courts messages destinés tant aux survivants qu'aux victimes. On fera la même chose en Corée du Sud au moment du naufrage du Sewol, le 16 avril 2014, plus de 300 disparus, et on l'avait fait lors de la tuerie de l'école états-unienne Sandy Hook en 2012. Il reste donc des moments où les modes de communication contemporains ne suffisent plus, où il faut s'exprimer autrement que par Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou TikTok. On l'a encore vu pendant la crise du coronavirus. Les résidences pour personnes âgées du Québec ont été particulièrement touchées par l'épidémie. Beaucoup de ceux que les autorités politiques québécoises appelaient « nos aînés », beaucoup de ces personnes ont été coupées du monde pendant plusieurs semaines. On leur a téléphoné, bien sûr, on leur a donné des tablettes numériques pour voir leurs proches, mais on leur a aussi écrit, et écrit au-delà des générations. Il y en a eu des initiatives locales où une enseignante demandait à des enfants d'écrire à des personnes âgées pour qu'elles ne sombrent pas dans la plus totale des solitudes. Bref, non, la lettre n'est pas morte. Et je ne parle même pas des lettres ouvertes dont les médias ont été les destinataires sur une échelle qu'on imagine peu égalée dans l'histoire. Parallèlement à ces écritures du jeu, nombre d'autres formes d'expression ont été utiles. Je pense ici à des réseaux de courts poèmes sur Twitter, rassemblés sous le mot « clic », pas « hashtag », je suis québécois, sous le mot « clic » « COVID poème », ou à des textes de fiction publiés sur des blogs de nature fort diverse. À l'occasion, on pouvait distinguer nettement une expérience personnelle, mais mise à distance par un travail formel. À d'autres moments, la fiction s'imposait avec une plus grande radicalité encore, comme s'il fallait éloigner de soi, s'il fallait s'éloigner de soi pour donner un peu d'ordre au monde ou pour faire voir que l'ordre n'était peut-être plus la meilleure catégorie pour penser ce qui nous arrivait. On notera au passage qu'il s'agit encore une fois de formes réputées désuètes, la poésie ou le blog, qui ont été mises à contribution. De la même façon, les manifestations culturelles orales se sont multipliées avec ou sans support visuel. On a par exemple revampé la lecture à haute voix, soit numériquement, il y a eu des corona-lectures sur le web, soit par téléphone. Au moins en France et au Québec, vous pouviez commander électroniquement votre lecture d'un texte du répertoire théâtral, d'un classique, et réserver une date et une heure. À l'heure dite, un comédien professionnel vous téléphonait pour vous lire le texte de votre choix. À son tour, le personnel de Bibliothèque et Archives nationales du Québec a offert un brin de lecture pour les aînés. Dans les deux cas, vous aviez 15 minutes de communion au bout du fil. Pour leur part, des conteurs ont inventé le conte à relais. Un premier prend la parole, puis la passe à un deuxième, ainsi de suite. Et circulent alors des contes traditionnels à narrateurs multiples. En Irlande, une poetry line téléphonique a été improvisée. L'artiste montréalaise Patsy Van Roost, elle, a décidé d'écrire littéralement sur la ville, pas au sujet de l'espace urbain, mais à même cet espace. En se servant de 150 banderoles, elle a décidé de faire parler les balcons, pour emprunter une expression au quotidien Le Devoir. Après avoir confectionné sa première bannière pour sa colocataire, heureuse en titi d'être confinée avec toi, disait-elle, elle s'est prise au jeu et elle a répondu à des commandes. Comment ces commanditaires l'ont-ils repéré? En marchant dans la rue ou en consultant Facebook. On a le plus souvent raison de dire que les réseaux sociaux enferment leurs usagers dans des bulles discursives et que l'on a tendance à y rejoindre des gens qui pensent nécessairement déjà comme nous. C'est vrai, mais ce n'est pas complètement vrai et ce n'est pas toujours vrai. Ces réseaux sociaux peuvent aussi être des lieux de véritable partage. Les quelques expériences que je viens d'évoquer très brièvement ne changent strictement rien à la précarisation des métiers de la culture dans lesquels nous sommes entrés au début de l'année 2020. Mais elles rappellent que, pour donner sens au monde, cette culture est fondamentale et qu'elle sait se réinventer. L'intellectuel, revenons-y, a le bonheur d'habiter la sémiosphère, selon la définition d'André Bello que je me suis appropriée. Ce bonheur peut toutefois être menacé. Certains signes sont plus inquiétants que d'autres et l'intellectuel doit repérer ceux-là également. Je suis professeur d'université. Par la force des choses, j'ai dû, depuis quelques semaines, et je devrais pendant au moins quelques mois, enseigner à distance, selon la nouvelle formule consacrée. Jusqu'à un certain point, la situation justifiait cette transformation du cadre pédagogique. En mars, quand on a fermé les salles de classe de mon université, il a fallu trouver dans l'urgence de nouveaux modes de fonctionnement pour assurer la réussite des étudiants pour le trimestre en cours. Comme mes collègues, j'ai bricolé des compléments pédagogiques à l'enseignement que j'avais donné jusque-là en face à face. Ce n'était pas très satisfaisant intellectuellement, mais c'était nécessaire. Le Québec n'a pas retenu l'expression « continuité pédagogique », mais c'est exactement de cela qu'il s'agissait. Puis est venu le trimestre d'été. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec a décrété que tous les cours universitaires québécois seraient des cours à distance. On ne prenait pas en compte les spécificités disciplinaires ni l'importance relative de chacun des cours au sein d'un programme de formation. Tout le monde devait faire la même chose. Je rédige donc cette conférence pendant que je donne, à distance, un cours sur Diderot. L'automne ne s'annonce pas meilleur sur le plan pédagogique. On vient de nous annoncer que nous enseignerions alors à peu près tous à distance. Je le ferai, comme mes collègues le feront, avec les mêmes interrogations et surtout avec les mêmes craintes. Quelles craintes? Allons voir. Mais d'abord, une précaution préliminaire. Il est difficile aujourd'hui d'être professeur d'université. Je n'ose imaginer ce que c'est pour ceux et celles qui travaillent auprès des enfants et des adolescents. La pandémie a obligé les établissements d'enseignement à revoir leurs façons habituelles de procéder. On s'est félicité de la résilience de ces établissements, de leur adaptabilité, de leur flexibilité, de leur efficacité, voire de leur agilité. Les étudiants auraient été globalement satisfaits de leur expérience. Ce discours roboratif tient plus du vœu pieux que d'une analyse rigoureuse des faits, mais pour l'instant, il a valeur de vulgate. Tout cela repose pourtant sur une série de confusions. La première porte sur la nature même de l'enseignement en ligne. Plusieurs font aujourd'hui comme si ce type d'enseignement s'appliquait à toutes les disciplines indistinctement. Ce n'est évidemment pas vrai. Professeur d'études littéraires, je sais qu'une partie de mon travail n'a de sens que devant un groupe d'étudiants. Certains aspects de mon enseignement pourraient, peut-être, passer en ligne, je l'admets, mais pas tous. Pourquoi faudrait-il imposer un modèle unique? L'enseignement en ligne a évidemment sa place à l'université, mais ce devrait être dans le respect des autres formes d'enseignement. On me dira que l'expérience des dernières semaines est le signe qu'on peut passer, sans trop de mal, de sa salle de classe à Internet. C'est la deuxième confusion. Nous avons dû, mes collègues et moi, improviser des cours à distance pour sauver ce qui pouvait être sauvé du trimestre alors en cours. Je ne parlerai que pour ma part. Les séances à distance que j'ai préparées dans l'urgence ne valaient pas du tout ce que je sais pouvoir faire en classe. Il fallait sauver les meubles et nous avons essayé de le faire. C'est beaucoup, j'en conviens, dans les circonstances, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui a été perdu. Troisième confusion. Les étudiants auraient été particulièrement satisfaits de pouvoir étudier à distance. C'est ce qu'on nous dit et c'est ce qui justifierait de poursuivre cette façon de faire. Quand je parle à mes enfants, quand je reçois les commentaires de mes étudiants, quand je prends connaissance des sondages d'opinion auprès des premiers concernés, je suis, pour le dire poliment, dubitatif. Il y a sûrement des étudiants qui ont aimé la récente expérience forcée d'enseignement à distance. Ça va de soi. Mais pourquoi faudrait-il que leur voix enterre celle des autres, ceux qui ont déploré et qui continuent de déplorer d'être les cobayes d'un nouveau mode de transmission du savoir, ceux qui craignent une formation au rabais? Que faire de ces étudiants qui suspendront leurs études ou qui ne reviendront pas à l'université parce que l'enseignement à distance n'est pas ce qu'ils sont venus y chercher? On aurait encore intérêt à se demander qui sont ces étudiants dont nous parlons les uns et les autres. Par exemple, pensez que les universitaires de 2020 sont tous familiers avec tous les outils numériques est une grave erreur, c'est une vue de l'esprit. Faites l'expérience. Demandez à un groupe d'étudiants de mettre du texte, du son et une image sur une plateforme de blog relativement facile à maîtriser. Vous serez étonné de leurs compétences souvent bien relatives. Ce n'est évidemment pas un reproche que je leur adresse. De même, croire que tous les étudiants ont accès à un ordinateur et à une connexion Internet à haute vitesse et stable est une autre erreur. Ils travaillent souvent sur des appareils portatifs, téléphone, plus rarement tablette, avec des connexions dont la stabilité et les coûts peuvent varier considérablement. Voilà une quatrième source de confusion, croire que la fracture numérique est une chose du passé. Je ne parle même pas des conditions financières difficiles dans lesquelles se trouvent partout les étudiants aujourd'hui. Pour plusieurs, l'université est un luxe. La dernière confusion, et peut-être la principale source de crainte en ce qui me concerne, porte sur la suite des choses. Quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale de la France annoncer que l'école de demain sera à distance, ou quand je sens monter dans ma propre université la tentation de rendre pérenne des façons d'enseigner qui ne devraient pas être généralisées, selon moi, alors je m'inquiète. En temps normal, dans mon université, qui veut créer un cours en ligne a droit à de nombreuses et nécessaires ressources. Soutien pédagogique et professionnel, allègement de la tâche d'enseignement, longue période de préparation. Subitement, cela ne tient plus. Puisque je dois donner un cours d'été et des cours d'automne à distance, je devrais me passer de ces ressources et me lancer dans une expérience d'enseignement pour des cours qui ont été conçus dans un autre cadre, sur un autre modèle, tout cela complètement différent. Je n'ai pas le temps de faire autrement. Je voudrais qu'on comprenne bien. Ce n'est pas par technophobie que je m'inquiète pour l'avenir de l'enseignement universitaire. La vidéo que vous écoutez, je l'ai conçue, filmée et montée avec l'aide de mes fils. Je me sers quotidiennement du courrier électronique depuis la fin des années 1980. Dès le milieu des années 1990, dès l'apparition du web donc, j'ai proposé à mes étudiants des ressources numériques. Autrement dit, le numérique, j'y crois. Ce à quoi l'intellectuel que je suis ne croit pas, j'y reviens, c'est au passage universel vers le tout numérique, pour des motifs qui sont bien plus politiques et économiques que pédagogiques. Libre à mes collègues d'autres disciplines, voire aux collègues de ma propre discipline, les études littéraires, de choisir d'investir pédagogiquement le numérique. Ce devrait être précisément cela, un choix. Je veux pouvoir soumettre à mes étudiants des hypothèses de lecture. Je veux voir tout de suite où ça coince. J'ai besoin de leurs questions quand ce ne sont pas de leurs objections. Il me faut les voir interagir entre eux. Le numérique permet, bien sûr, de saisir des réactions, mais jamais avec l'immédiateté de l'espace partagé. La tradition multiséculaire de l'enseignement universitaire repose précisément sur cela, un partage. De plus, nous avons besoin les uns et les autres de temps pour réfléchir et de temps pour apprendre. Et c'est encore plus vrai dans le cadre d'une formation qui suppose une bonne dose d'autonomie intellectuelle. Enseigner à distance, ce n'est pas nécessairement moins bien que l'enseignement en classe, ce n'est pas nécessairement mieux, mais c'est nécessairement autre chose. Et tout le monde n'a pas à se plier à cette autre chose, à ce modèle unique. Pour conclure ma brève dystopie pédagogique, j'ajouterai deux choses. La première est qu'aucune technique, y compris les numériques, n'est neutre. Quand une école maternelle italienne souhaite déployer des bracelets numériques pour contrôler la distanciation physique, ou quand l'État français envisage de confier à des sociétés privées la télésurveillance des examens en installant des logiciels sur les ordinateurs de ses élèves, on doit raisonnablement s'inquiéter. C'est aussi dans la nature du travail de l'intellectuel que de s'inquiéter, je l'ai déjà dit. La deuxième chose que je voudrais indiquer n'est pas moins inquiétante. La crise sanitaire de 2020 a évidemment pesé lourd sur l'économie de la planète, jusque dans les établissements d'enseignement. Certains essaient de saisir l'occasion pour se défaire de secteurs jugés trop coûteux. Aux États-Unis, ce sont des programmes de sciences humaines qui sont menacés. Dans l'ouest du Canada, c'est la survie d'institutions francophones qui est en péril. L'intellectuel a, en ces matières, un devoir de vigilance. Essayons de terminer sur une note un peu moins sombre, de ne pas perdre de vue le bonheur d'habiter la sémiosphère dont parle André Bello. Ce bonheur, c'est aussi celui de proposer des interprétations, des signes qui nous entourent, d'essayer de leur donner du sens. La première chose à faire pour un intellectuel est de conserver ces signes. La numérisation de nos existences a eu en cette matière un double effet. D'une part, jamais dans l'histoire du monde n'avons-nous eu autant de moyens de nous exprimer, crise ou pas. Internet, pour le dire d'un mot commode, ne cesse de multiplier les canaux d'expression. On peut essayer de retracer les effets de l'épidémie de la grippe espagnole de 1918 dans les signes qu'elle nous a laissés. Articles de presse, textes personnels, écrits fictifs, rares témoignages oraux, images fixes, surtout immobiles. Cela n'a aucune commune mesure avec la masse documentaire que nos sociétés laissent derrière elles. D'autre part, cette multiplication des signes pose le problème de leur conservation, de leur archivage, de leur mise à disposition en des formats permanents. La tâche est herculéenne, mais plusieurs, partout dans le monde, s'y sont attelés, aussi bien des chercheurs que des institutions, par exemple la Bibliothèque nationale de France, des services d'archives régionaux ou des centres de recherche. Ils sont en train de nous organiser des contenus du web et des archives de Twitter à partir des mots-clics reliés à la pandémie. Les discours complotistes qui polluent la vie de la cité doivent également être préservés si nous souhaitons que la peur dans laquelle nous baignons puisse un jour être rationalisée. On rassemble des photos, des vidéos, des dessins d'enfants, des textes, des paroles de chansons, des affichettes de commerçants et des objets du quotidien ou du monde de la santé. Il y a même des gens qui collectent aujourd'hui nos rêves. À quoi peut-on bien rêver quand il y a tant de morts autour de soi? Des histoires orales sont en cours de constitution, celles de soignants ou d'enseignants, par exemple. Les rhétoriciens auront à comprendre la contamination, c'est le cas de le dire, des discours publics les uns par les autres. Comme l'écrivait Jean-Marie Klinkenberg dans La Libre Belgique, l'homo covidiensis est confronté à un enchevêtrement verbal inouï de ces discours. Remercions par avance ces personnes et ces établissements qui recueillent les archives du confinement à des fins patrimoniales. L'intellectuel n'a pas à attendre que ces signes aient tous été rassemblés avant de s'interroger. De toute façon, ces signes, ils ne seront jamais tous rassemblés. Il a cependant à attendre avant de céder à la tentation de donner des leçons. C'est le travers naturel de l'intellectuel. En janvier 2015, je n'avais rien à dire de particulièrement éclairé sur les réseaux du terrorisme français. Des gens beaucoup plus qualifiés que moi l'ont fait, et fort heureusement. Je pouvais cependant apporter ma pierre à l'édifice interprétatif en fonction de mes propres compétences. Il me semblait alors qu'un historien de la culture, c'est ainsi que je me définis, pouvait jeter un peu de lumière sur un geste bien circonscrit. Invoquer le nom d'un écrivain mort en 1778 pour donner sens à une tuerie de masse contemporaine. En 2020, il me paraît que la situation n'a pas fondamentalement changé. Je serais volontiers tenté de formuler des commentaires peu amènes sur le jargon qui sévit dans l'espace public et que nous n'hésitons pas à partager. Chez vous, elle est aplatie, la courbe? Les bulles sociales, ça marche? Le couvre-visage, c'est efficace? Pour l'instant, je me contente, pour m'en tenir à l'ordre des mots, de relever l'évolution du vocabulaire et d'en proposer une interprétation préliminaire. Rien de plus. Mais rien de moins, non plus. De la même façon, j'essaie de mettre en perspective historique les pratiques qui sont redevenues les nôtres. Qu'arrive-t-il à des formes d'écriture, aussi anciennes que le journal intime ou la lettre, quand elles cohabitent avec les écritures numériques? Quand choisit-on les unes et quand choisit-on les autres? Je me demande aussi ce que représente la lecture en période de confinement. Comment lit-on? Que lit-on? Pourquoi lit-on? Que fait-on des œuvres que la tradition nous a données comme classiques? Je me dois aussi de m'interroger sur ce que transmettre veut dorénavant dire, surtout, en ce qui me concerne, dans un cadre pédagogique. Cette interrogation a de porter autant sur des contenus que sur des méthodes. Pourrais-je, à l'avenir, continuer à faire mon travail de professeur d'université comme avant? Quels seront les effets à long terme des bouleversements dans lesquels nous sommes plongés, élèves, étudiants, professeurs et administrateurs? Il n'est pas du tout sûr que l'urgence en ces matières, comme en tant d'autres, soit bonne conseillère. Dans le monde d'après, il sera toujours temps de revenir à ce que l'urgence m'aura dicté. Mon travail d'intellectuel continuera.